Bienvenue dans le podcast Nouvelle Conscience. Nous discuterons ensemble de projets, d'œuvres et d'acteurs vecteurs d'espoir pour l'édification d'un monde plus respectueux du vivant et de soi-même. Je suis Manon Sala et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien intrinsèque entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Je vous invite à me joindre dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Séverine Perron au micro de Nouvelle Conscience. J'ai découvert le travail de Séverine pendant le deuxième confinement. Séverine Perron fut l'une de ces rencontres qui embellissent le chemin et sèment des idées, des impulsions subtiles vers d'autres formes de connexion à la vie en nous. Séverine est chamane, poétesse, femme guérisseuse, facilitatrice de cercles. Elle aime avant tout se présenter comme une être humaine en chemin qui cultive l'ancrage et la reconnexion. Avec Séverine, nous avons tenté de répondre à ces questions. Quelle est notre part de responsabilité dans l'interdépendance? Quelle empreinte désirons-nous laisser pour les générations actuelles et celles à venir? Celles-ci font écho à un questionnement plus grand sur la place de l'être humain sur Terre, à la fois membre et co-édificateur du grand tout. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Séverine.
Bonjour Manon.
Comment vas-tu en ce lundi matin?
Écoute, je vais très bien. J'apprécie beaucoup cette saison, même si elle est déjà quasi estivale, mais c'est un moment que j'aime beaucoup. Dans une période de vie où j'ai pris le temps aussi de ralentir, donc je suis beaucoup au jardin.
Ouais.
Et c'est un temps qui est très nourrissant. Entre les déterres intérieures et puis aussi ces moments extérieurs dans une forme d'intimité, parce que le jardin fait vraiment comme un interstice avec le monde extérieur, oui.
Oui, mais tu as très bien fait la transition vers ce dont je souhaite qu'on parle aujourd'hui. Voilà, cette alternance, cette interdépendance entre l'intériorité, l'extériorité, l'individu et puis le collectif, la communauté. Mais avant de commencer, je souhaiterais te proposer de te présenter comme tu le souhaites, avec le cœur et en conscience. Ce sont mes invitations de présentation.
Je dirais que je suis une être humaine en chemin, comme beaucoup, et puis dans cette nouvelle phase de vie, riche de beaucoup d'expériences finalement, et d'un temps d'alchimie qui a été, je dirais, au fil des saisons et des saisons de vie que j'ai vécues. J'entre dans une forme de période de ma vie où je me définis pas par un titre, mais c'est vraiment celle que je suis et celle qui vit, qui est présente pour les personnes autour de moi, mais aussi d'une manière générale plus les êtres vivants, c'est-à-dire qu'il y a les êtres humains, la communauté d'êtres humains, mais aussi la terre, tous les éléments, la terre où je vis, et aussi les animaux, les végétaux. Donc oui, c'est peut-être en un mot, comme une passeuse et quelqu'un qui fait le lien entre tous ces éléments-là. Et dans mon quotidien, je me suis détachée de cette notion aussi du travail, du statut et de ce qui doit être fait ou même de l'accomplissement. Ce sont des choses que j'ai cherchées, que j'ai nourries aussi et qui ont été importantes parce qu'elles donnent aussi des expériences. Elle donne une certaine confiance et maturité. Mais aujourd'hui, je sens profondément que ce que je suis fait ce que je fais dans mon quotidien et de multiples manières pour aider, soutenir, éclairer, guider et accompagner aussi dans la résilience, que ce soit des êtres humains ou des terres.
D'accord. Et justement, comment tu accompagnes les terres dans la résilience, puisque l'accompagnement de l'être humain, je pense que les auditeurs et les auditrices peuvent en avoir une représentation. Voilà, une forme thérapeutique ou d'accompagnement, de médiation, mais plutôt l'accompagnement des terres extérieures. Comment tu cultives ça?
Alors, déjà, j'ai commencé en m'enracinant dans un lieu, et dans le lieu où je vis, qui a bien sûr un grand jardin. Donc, c'est aussi un laboratoire d'exploration du vivant qui est plus accessible que la nature et surtout dans lequel on peut intervenir en tant qu'être humain, ce qui est plus difficile dans des champs ou dans la montagne qui est autour, même si j'en parlerai après, mais c'est quelque chose sur lequel j'œuvre aussi. Donc il y a déjà ce premier échelon, c'est aussi, ou ce premier cercle, c'est le jardin, et j'ai essayé vraiment d'amener, parce que ça fait 7 ans que je vis ici, d'amener une grande biodiversité. Alors bien sûr qu'il y a des notions aujourd'hui qui pourraient parler aux auditeurs, aux auditrices, comme la permaculture. Bien sûr qu'il y a une réflexion autour de ça. Mm-hmm. Simplement, je suis beaucoup dans l'essai, erreur et l'heuristique, c'est-à-dire j'expérimente les choses et ensuite je bouge, j'essaie de nouvelles formes ou manières. Mais tu vois, ça va de l'aménagement du jardin où il y a des espaces pour des pratiques, des rituels, les rituels que je peux faire, mais aussi verger pour apporter une certaine autonomie alimentaire qui me questionne beaucoup et vers laquelle j'essaye de tendre, le potager. Et ensuite, j'ai des endroits où je cultive des médicinales, que ce soit des herbacées, mais aussi des arbres. Donc, j'essaye vraiment de développer ça. Et tu vois, j'ai le plaisir aujourd'hui de pouvoir offrir aussi cet espace aux personnes qui viennent, mais même mes amis ou ma famille. Mm-hmm. Et ça fait une forme de havre de paix, tel qu'on, moi, j'ai pu le vivre et le ressentir. Dans des jardins, même publics, qui ont mis des années, voire des décennies à être cultivés par l'homme, avec une certaine modération et un certain respect aussi du vivant. Mais là, aujourd'hui, ce que j'expérimente, c'est vraiment la diversité. Pour moi, je me rends compte à quel point l'alimentation qu'on a aujourd'hui est liée donc à l'agriculture, qui est tellement industrialisée, et ce, depuis plus de 60 ans, 70 ans. Je dirais même que toute l'agriculture aujourd'hui intensive est basée sur la guerre, c'est-à-dire qu'on a utilisé des intrants qui venaient d'anciennes armes chimiques qui restaient après les deux grandes guerres mondiales. Et finalement, on détruit des pratiques agricoles, on enlevait aussi une diversité. Et pour moi, c'est urgent, mais plus qu'urgent, de pouvoir chacun dans notre potager ramener une biodiversité qui va essayer d'équilibrer toutes ces pratiques agricoles intensives qui détruisent tout autour d'elles, toute vie en fait, et qui nous détruisent en tant qu'êtres humains de fait. Donc ça, c'est, je dirais, un premier échelon. Et autour de ça, bien sûr, il y a des échanges avec les personnes, des échanges de semences, le fait de donner aussi des semis de plants qu'on peut avoir en trop. Donc ça cultive aussi des liens autour de la communauté. Et ça permet aux personnes qui viennent de pouvoir observer des plantes qu'on trouverait pas forcément dans les forêts ici, parce qu'on a une certaine flore qui est liée à des forêts de montagne. Donc ça reste limité dans ce qu'on attend d'une plante, parce que ce sont essentiellement des essences médicinales d'arbres qui vont soigner et apporter des médecines. Et puis l'autre aspect, c'est que je me suis rendu compte que justement nos médecines dans les forêts sont liées à la préservation de ces espaces-là et de ces écosystèmes. Et ça fait quelques mois, voire années, que j'essaye de me dire comment on peut préserver ces écosystèmes. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que moi toute seule, j'étais bien trop petite et j'avais pas assez de capital matériel et financier pour le faire. Par contre, dans un collectif, là, ça prend une toute autre ampleur et une toute autre puissance. Et du coup, un collectif s'est créé il y a un peu moins d'un an et demi, dans une région proche. Parce que si tu veux, la notion de village, elle est au quotidien. Mais après, les forêts, les écosystèmes, on peut tracer comme une circonférence à 200 ou 300 kilomètres. Et je pense que là, on a un vrai terrain d'action et de préservation de la biodiversité qui est importante. Parce que tu vois, des animaux comme les loups ou comme les lynx, ils ont des transhumances qui ne sont pas à notre échelle.
Oui.
Et du coup, c'est important aussi de raisonner à plus large échelle sur des territoires qui dépassent les départements, qui sont finalement que des frontières politiques, mais qui résonnent plus sur des notions de massifs, massifs montagneux pour nous. Et donc, avec ce groupement et ce collectif, on achète des forêts ensemble. Donc, il y a une démarche raisonnée et raisonnable de la forêt et aussi de l'achat, parce qu'aujourd'hui, il y a une telle pression financière et du foncier qu'en fait, il y a une tentative d'essayer de survendre les forêts par les anciens propriétaires. Donc, ça fait aussi un rapport de force et de négociation pour acheter des forêts et les préserver. Donc, ça veut dire qu'on va pas les mettre sous cloche, mais ce sont des lieux partagés. Et ça, c'est vraiment une démarche qui est extrêmement intéressante, à la fois dans la réflexion, dans la mise en place de la gouvernance, mais aussi dans l'action et finalement un pouvoir très concret des citoyens. Qui peuvent justement agir, même si on n'a pas beau, enfin si on a, je dirais, un capital financier qui reste modeste par rapport à ce que peut coûter aujourd'hui un terrain à l'achat d'une forêt, qui reste quand même réservé à une certaine élite et un certain niveau de revenus ou de capital. Donc voilà, il y a cette réflexion là et de soutenir aussi des écolieux qui pourraient se développer. Donc, à la fois dans leur modèle, mais aussi dans la possibilité de les créer, d'avoir accès à la propriété, donc plus par du microfinancement. Donc, voilà, tu vois, c'est pas une chose, en fait, c'est vraiment plusieurs leviers d'action que j'expérimente et qui, pour moi, en fait, tournent autour de la terre, non pas en termes de propriété personnelle, mais plutôt comment on partage et on fait vivre cette terre, parce qu'en fait, je crois que les limites qu'on vit d'un point de vue écologique sont aussi intriquées avec les limites financières. Donc, du coup, c'est très stimulant d'amener la créativité, non pas pour une créativité pour soi, mais plutôt pour trouver des solutions ensemble.
Oui.
Et accepter qu'on n'a pas la solution seule, mais qu'en fait, c'est en échangeant avec d'autres personnes, d'autres collectifs, d'autres familles, qu'on arrive en fait à pouvoir faire revivre un territoire à la fois au niveau de la biodiversité naturelle mais aussi culturelle. Pour moi, c'est complètement lié.
Oui, c'est super intéressant comment tu as fait le pont entre d'abord ton jardin que tu as cultivé à ton échelle avec tes zones d'expérimentation et comment une fois ceci mis en place, construit, ça t'a impulsé, ça t'a donné envie d'aller partager finalement à une autre échelle un peu plus grande, un peu plus vaste. Donc, comment s'est fait ton cheminement ? Donc, tu es partie, toi, déjà, de ce qu'il y avait à ta portée et ensuite, tu as voulu l'offrir à un monde plus vaste. C'est comme ça que tu as transité vers ces nouveaux projets ?
Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est très récent, toutes ces prises de conscience, mais je pense que comme beaucoup de personnes de ma génération, de ta génération et de, on va dire, toutes ces personnes qui ont entre 20 et 45 ans aujourd'hui, on a été sensibilisées. Tu vois, moi, le sommet de Rio en 92, j'avais 15 ans. Donc, du coup, j'ai pris conscience de l'impact écologique. Sachant qu'on en parlait depuis les années 72, le premier rapport, c'est le rapport Meadow qui a parlé en fait du désastre écologique qui allait arriver. Et depuis, il y a finalement, il y a beaucoup de sensibilisation. Et en fait, en même temps, on sent qu'on rentre dans un tunnel où on a de moins en moins de marge de manœuvre. Donc, la première chose, ça a été de m'enraciner ici. Surtout qu'en tant que mère, j'avais aussi besoin que ce soit cohérent avec l'éducation que je voulais apporter à mes enfants et aussi commencer par soi, c'est-à-dire de pas être dans le dogme ou uniquement dans les idées, mais d'arriver dans une pratique et un quotidien où en fait j'ai tout déconstruit, y compris mes aspirations à partir en vacances, en voyage, avoir un certain confort de vie. Petit à petit, je le ramène à l'essentiel. Et en fait, au plus je le ramène à l'essentiel, au plus je me rends compte et je me suis rendu compte que c'était l'essentiel qui pouvait se développer. Et c'est exactement ce qui se passe dans la nature. Donc là, tu vois, ça fait 7 ans maintenant que je suis là, que j'ai fait ces pratiques à la fois pour mon lieu de vie, ma famille et pour moi, les personnes que j'ai accompagnées ou que j'ai reçues ici. Oui. Et finalement, oui, il y a eu ce passage là ces derniers mois parce que c'est quelque chose que j'avais aussi à l'intérieur. Je voulais relier ce que j'avais compris il y a 30 ans avec ce que je pouvais faire finalement. Mais tout ça, c'est extrêmement long. Mais c'est comme un arbre avant qu'il donne des bons fruits et qu'il nourrisse une famille. Il faut aussi des années. Donc oui, c'est un long chemin, mais je crois qu'il n'est pas impossible. Il faut juste être patient et persévérant.
Oui, oui, oui. Merci. C'est important de justement présenter la patience et la durabilité, le temps long comme... comme quelque chose à cultiver, parce qu'on a tendance plutôt à vouloir l'immédiateté et recevoir les fruits de suite. Donc, ça m'emmène vers une autre question que je voulais te poser, c'est comment la nature peut-elle nous donner des indices, des informations sur nos cycles, sur notre temporalité d'humain ?
Ah, c'est une très bonne question et c'est important de la donner parce qu'on vit dans un temps très accéléré. Alors, ça fait depuis l'après-guerre, hein, la deuxième grande guerre mondiale, que c'est déjà le cas, les 30 glorieuses notamment. Et on en est arrivé à croire qu'en fait, le temps, c'était le temps productif, le temps linéaire, chronos. Et on a toute une déconstruction par rapport à ça. Et le fait d'être proche de la nature, et bien évidemment, j'ai pas du tout le même rythme que la plupart des personnes, ça c'est certain, mais... En même temps, ça m'a apporté une conscience vraiment intime, cellulaire quasi, du temps qui passe et du temps qui fait, c'est-à-dire des saisons. Et du coup, je sens à quel point aujourd'hui mon corps est synchronisé et donc mon niveau d'énergie et ma capacité à faire est synchronisé avec le temps qu'il fait. Tu vois, là, c'est très, très orageux ce matin. Je te donne cet exemple. Et en fait, je me rends compte que ça fait des semaines avec le beau temps que je suis au jardin. Je travaille dur, du coup, dehors. Et physiquement, c'était dur. Et je sentais que j'étais fatiguée ce week-end. Oui. Et j'étais contente qu'il pleuve un tout petit peu ce matin pour pouvoir me reposer. Et du coup, ce sont des détails, mais... C'est aussi pour ça qu'il y a tant de maladies, de fatigue, de burn-out, parce qu'en fait, on est constamment en train de tirer sur la corde. Mmh. Et même quand on a conscience de ça, c'est extrêmement difficile parce que tout est construit aujourd'hui pour nous amener à toujours être dans le mouvement, un peu comme des fourmis. Et ça, c'est dramatique parce qu'en fait, on se vide de notre substance et ensuite, on n'a plus l'énergie pour parfois créer ce qui est vraiment important dans notre vie. Et pour moi, ce qui est important dans notre vie et dans la vie de tout être humain, c'est d'avoir un toit, c'est de pouvoir se nourrir et pouvoir vivre, en fait, tout simplement vivre. Et pour moi, actuellement, on est plus, pour beaucoup de personnes sont en mode survie. Et je te parle même pas des zones de guerre, je te parle juste, dans les mondes occidentaux où soi-disant on a tout. Pour moi, la plupart des personnes sont en survie. Elles sont fatiguées, elles sont épuisées. Et puis, les écrans amènent aussi à de moins en moins de sommeil. Donc, quand on n'a pas l'énergie, en fait, on ne peut pas créer, on n'est pas inspiré, on a moins de temps pour les autres, moins de possibilités d'élan du cœur aussi, parce qu'on est juste épuisé. C'est un petit peu, si on prend l'analogie à une terre, c'est une terre qui devient désertique, qui n'est pas assez arrosée, qui est malmenée, qui est en monoculture. Oui. Et c'est passe dans notre vie d'être humain actuellement, dans notre société, je dirais, et dans notre histoire aussi. C'est-à-dire que l'assèchement actuel de la planète fait vraiment écho à un assèchement, je dirais, global de notre civilisation humaine. La nature, la proximité avec la nature, et même pour des personnes qui vivent en ville, d'aller dans les parcs, c'est toujours des petits, je dirais, rappels que la vie est là, que les oiseaux reviennent au printemps, qu'ils chantent, que les fleurs sont là au printemps et que l'été, on a besoin de ralentir parce qu'il fait chaud, que l'automne, on a la profusion et l'abondance de la nature avec les légumes, les fruits, toutes les couleurs, les saveurs possibles. Et que après l'hiver, on se repose. On se repose et c'est fondamental. Donc ça, c'est aussi une manière simple. Et il y a un élan aujourd'hui actuel à manger plus de saison. Et ça, c'est magnifique. Mais c'est vrai que c'est toute une discipline, comme certains pratiquent le yoga ou la méditation, pour être en lien avec les cycles des jours et de la nuit, donc du soleil et de la nuit, mais aussi le cycle des saisons. Parce qu'on est des êtres qui vivent intimement liés à cela, comme les animaux, comme les plantes. Si on n'a pas de lumière naturelle, on meurt en fait. Hein. Oui. On meurt vraiment dans notre essence, ouais. Et même dans notre vitalité.
Oui, donc il y a une forme d'activisme finalement à vouloir se relier à la nature. C'est également s'engager pour plus de liens, pour plus de sensibilité, et donc pas que pour soi, mais aussi pour le monde.
Oui, bien sûr. Ah oui, oui. Ben, en fait, c'est vraiment pour moi, c'est intriqué. C'est-à-dire que la nature nous permet de peut-être revenir plus simplement à notre essence avec une forme d'autonomie, qu'elle soit psychique, émotionnelle et je dirais même spirituelle. Donc ça, c'est fondamental. Et qu'ensuite, il y a un moment où quand on a récupéré cette autonomie, ce pouvoir, en fait, ce pouvoir être, ce pouvoir vivre, on peut commencer à transposer vers les autres. Et c'est en cela que, aussi, il faut accepter dans un chemin de vie ces étapes qui sont nécessaires parce que, tu vois, moi, tous nos enfants, parce qu'on en a 4, sont en train de partir de la maison et ça libère aussi du temps, ça libère de l'énergie et ça me permet aujourd'hui d'être de plus en plus disponible pour l'extérieur. Et c'est un moment qui est important et qu'on peut aussi accepter, c'est-à-dire que quand on est mère avec des enfants petits, en bas âge, c'est difficile de tout donner vers l'extérieur. Oui. Parce que déjà, le fait d'être mère est une grande responsabilité, mère et père, hein, enfin, pour moi, c'est les deux, bien sûr. C'est une grande responsabilité et que on a la responsabilité de nos enfants comme on a la responsabilité d'un jardin. Et quand les enfants quittent la maison, le jardin, ben, on a plus d'espace aussi et de possibilités pour aider. Et on a aussi plus d'expérience de vie. On a moins besoin de reconnaissance. Tu vois, c'est tout un processus qui fait qu'il y a une espèce d'ouverture, en fait, qui est là et qui est simple. Et on peut mettre notre expérience au service des autres et d'autres projets. Donc, ça devient vraiment fertile et fécond. C'est un peu comme le fruit qui commence à donner d'autres qui essaiment. Hein. C'est la graine qui essaime un peu plus loin et pas que pour soi. Ouais.
Oui, oui, ben c'est beau ce que tu dis parce que je trouve que ça incite aussi à l'acceptation de ce qui est, à ne pas justement vouloir guider les étapes ou au contraire avoir une forme de nostalgie sur la jeunesse, par exemple, qu'on va nous vendre comme étant l'âge d'or. En fait, chaque temps a son âge d'or, en fait, a sa chose à apporter à la vie, sa concrétisation dans la matière et aussi dans un rapport spirituel au monde. Donc, ouais. Merci d'avoir appelé ça. Et tu voudrais rajouter quelque chose ?
Non, enfin, si ce n'est que... Oui, je crois que c'est vraiment important d'accepter aussi qu'on a tous une contribution, qu'elle peut paraître modeste quand on est plus jeune, tu vois. Et ensuite, en fait, cette contribution, si on en prend soin, un peu comme d'une graine, elle va devenir elle va sortir de terre et puis elle va devenir un arbre et puis un jour ça donnera des fruits et ça nourrira les autres. Mais chacun a une croissance et une essence qui lui est propre et c'est important de la respecter parce que tant qu'on essaye d'être autre chose que ce qu'on est, bien souvent on perd notre temps, notre énergie, on se fait beaucoup de mal et en plus on donne pas l'exemple entre guillemets à d'autres personnes qui pourraient s'inspirer de notre voix. Et ce travail d'alignement, il se fait aussi avec les années. Et puis parfois, les échecs, les erreurs qu'on peut faire, soit dans les projets, soit dans les rencontres. Et tout ça s'affine. Mais c'est l'âge, en fait. C'est les bénéfices de l'âge. Oui. C'est les bénéfices de l'âge et de l'expérience, oui, je crois qu'il est... Donc ça, c'est... Et du coup, on devient aussi plus compatissant et plus aidant avec beaucoup plus d'humour, de légèreté pour les jeunes pousses qui parfois impatiente. Mais oui. Ces jeunes pousses ont la fougue et l'énergie qu'on a moins. Donc, on a besoin les uns des autres.
Oui, ça va créer un équilibre comme ça entre les différentes saisons de l'âge. Parce que c'est comme si chaque âge avait un peu sa saison associée aussi. Ouais, oui,
tout à fait.
Est-ce que, Séverine, tu pourrais revenir sur le rapport spirituel à la nature ? Tu en as parlé tout à l'heure. Et voilà, revenir sur ce rapport-là. Peut-être que certaines ne le conçoivent pas en France, dans des pays occidentaux, alors qu'il peut être vraiment évident dans d'autres zones du monde.
Tout à fait. Oui, oui, c'est vrai. Et... Ah, alors, en fait, le rapport spirituel, il est extrêmement simple, dans le sens où, dans spirituel, tu as le mot esprit, on a le mot esprit, et pour moi, tout être vivant, tout élément de la nature dont nous sommes complètement et intégrés, et nous sommes nature, donc nous faisons partie de cet écosystème dans lequel on vit, en fait tout est esprit, et c'est en cela que c'est spirituel. C'est aussi une manière d'accepter qu'on fasse partie du tout, et que en nous et en chacune de nos cellules, on a toute l'histoire de l'humanité qui vit depuis ces milliards d'existences et d'années, à commencer par l'eau, hein, puisque l'eau est arrivée dès le début de la Terre, et que cette eau, elle est présente dans nos cellules. Donc, il y a toute la mémoire de l'histoire de l'humanité et de la Terre qui vit en nous. Et à partir de ce moment-là, c'est d'accepter qu'on fait partie de ce tout, que de toute façon, on est sur Terre de passage, et que notre propre corps et notre propre trajectoire va servir de nouveau à un terreau pour autre chose après. Dans la spiritualité, il y a quelque chose qui nous ramène à notre essence et à notre appartenance finalement au tout. Bien sûr à la communauté humaine, parce qu'elle passe déjà par là, mais après à quelque chose qui dépasse finalement ce qui est entendable, discible, qui est explicable et qui peut être décrit. Donc il y a une appartenance à ce tout, d'une part, et puis aussi accepter qu'on ne soit rien, qu'on ne soit pas plus important qu'un ver de terre, même si en tant qu'animaux totem, on voudrait tous avoir des aigles, des lions.
Oui, c'est clair.
Ou des énormes animaux, mais on peut aussi être un ver de terre ou une pauvre écrevisse dans la rivière qui n'ose pas sortir. Et en même temps, elle a aussi sa médecine. Donc oui, voilà, il y a cette dimension qui fait qu'on fait partie de ce tout et qu'on a notre contribution et qu'elle est déjà juste importante, avec le fait de vivre, de ne pas être trop en prédation sur la nature qui nous entoure, de lui apporter du soin et aussi de pouvoir se relier, c'est-à-dire que l'expérience spirituelle, elle se vit en communauté. Et pour moi, elle se vit surtout seule. Elle se vit seule dans la nature. Mais dans la nature, je ne suis jamais seule.
Oui.
Et ça, c'est une expérience qui est extraordinaire et qui, finalement, personnellement, est celle qui... c'est comme si, tout d'un coup, tout s'était aligné. C'est-à-dire que là où, des fois, je cherchais des pratiques plus collectives pour vivre une spiritualité, apprendre aussi certaines pratiques, je sais qu'en forêt ou même dans mon jardin, même au champ juste à côté, au bord de la rivière, quand je vais me baigner le matin dans le lac, en fait, je vis dans un état qui est, je dirais pas mystique, mais en fait qui est, oui, qui dépasse en fait ma conscience et ce que mon corps, enfin tout est là. En fait, je fais partie vraiment du tout. Il y a pas d'autre mot que ça. Donc après, je sais qu'en France, on a beaucoup de mal avec ces notions-là, parce que il faut aussi accepter et comprendre que dans notre histoire européenne, on a eu déjà une longue christianisation, donc avec une religion qui n'était pas païenne, avec plusieurs, c'est-à-dire la reconnaissance de certaines divinités dans la nature ou dans des formes de nature. Donc on a laissé une religion unique. Et ensuite, on a eu le siècle des Lumières qui a amené, je dirais, la raison pour se séparer de tout ce qui était de l'ordre du mystique, de l'impalpable et de l'invisible. Et ça nous a amené à la notion de progrès, à la fois sociétal et technologique. Et aujourd'hui, ce sont des nouvelles religions. L'argent, le progrès technique, la technologie sont des religions en lesquelles on a donné tout pouvoir. Donc, on a même plus contrairement à certaines traditions, je pense aux traditions soufis qui sont propres à l'islam ou aux traditions bouddhistes, on a perdu ce côté de la mystique qu'on a eu, hein, nous, dans la religion chrétienne et catholique. On l'a perdu parce qu'on a tout sacrifié sur l'autel de la modernité et de la technologie et de l'argent aujourd'hui.
Oui.
Donc voilà, je pense que beaucoup de maladies et de mal-être est lié aussi à la perte de sens de soi, mais aussi sens du divin ou de la mystique ou du tout. On peut mettre n'importe quel mot derrière, mais on peut pas être juste des gens qui produisons, juste des gens qui épargnons. Avec tout ça, c'est tellement factice, et en plus ça ne tient que sur une croyance au fait d'un système financier.
Oui,
donc
c'est vrai.
Le jour où on met plus cette croyance là et qu'on la met dans quelque chose qui est, même si ça peut paraître complètement mystique et loufoque pour certaines personnes, simplement, bah voilà, on peut pas simplement se contenter d'être des êtres de matérialité.
Mm-hmm.
On est aussi une conscience, on est un cœur, on a besoin d'être en lien avec les autres et d'être en lien avec soi et d'être en lien avec la nature. L'écologie, elle ne peut pas rester sur un seul sens matériel ou normatif.
Oui.
Elle doit aussi passer par une forme de sobriété, de spiritualité, parce qu'il n'y a qu'à ce moment-là qu'on commence à se rendre compte que tous les désirs qu'on a, tout ce qui nous met hors de nous, qui nous coupe de nous, en fait, nous font rentrer dans un système où on ne fait que consommer, produire, épargner.
Ouais.
En fait, on ne cultive pas du tout notre être et notre spiritualité.
Et merci d'avoir rappelé ça également, parce qu'on a peut-être une spiritualité de l'argent. Peut-être on a voulu créer ça, hein, tu vois, un esprit, mettre de l'esprit dans la possession. Justement, là, on est dans une intersaison. Donc, dans tes lettres auxquelles je suis abonnée, tu dis qu'on fait déjà partie de l'été dans la médecine chinoise, en tout cas dans cette cyclicité-là, qui a démarré le 8 mai, donc avec un peu d'avance, pour en comparaison avec notre été à nous, l'été en France. Est-ce que tu pourrais nous donner des idées de rituels pour nous relier à l'été, quel que soit cet été, l'été tel qu'il est daté en France ou l'été dans le calendrier chinois? Oui, des pratiques.
Ben c'est très important ce que tu soulignes sur la notion des rituels, parce que ça fait aussi la transition peut-être plus pratique et concrète sur cette dimension spirituelle et ce lien plus spirituel à la nature. De la même manière que quand on rentre dans une certaine pratique spirituelle, qu'elle soit bouddhiste, qu'elle soit hindouiste, qu'elle soit, enfin peu importe en fait, animiste, en fait ça transite aussi par les rituels qui marquent justement des saisons de vie ou des passages dans nos vies, ça et depuis que l'humanité existe, hein, et aussi qui rythment nos quotidiens. Au-delà de l'horloge et du temps qu'on a sur la montre ou sur l'horloge, en fait, les rituels permettent de rythmer les quotidiens et d'amener une forme de discipline et de, je dirais, d'enracinement dans nos quotidiens. Donc, le fait de pratiquer des rituels, par exemple, pour marquer les changements de saison, c'est très important. Et notamment avec cette saison de l'été, c'est vraiment une saison où on va, donc en médecine chinoise, puisque tu parlais de la médecine chinoise, on est lié à l'énergie vraiment du feu, donc du cœur, et c'est un moment où on se rend compte, si on observe un peu la manière dont on vit, c'est des temps où on aime se retrouver, où il y a plus de fêtes qui célèbrent aussi, par exemple comme les feux de la Saint-Jean ou encore le solstice d'été. Et de plus en plus, on voit partout, il y a des propositions pour célébrer ça ensemble. Donc ça peut être une manière de le faire de manière collective, mais aussi c'est des temps où on aime bien partager et manger ensemble. Donc c'est aussi, on peut y mettre plus de conscience et amener une notion de rituel dans le fait de préparer les repas et de partager aussi ces moments-là avec nos amis, avec nos proches, nos familles. Et ensuite, il peut y avoir des rituels qui sont plus intime et plus personnel. Et je pense notamment à se relier avec tous les sens, parce que c'est un moment où on est moins habillé, on porte moins de vêtements sur nous, ou en tout cas on met des vêtements plus légers ou plus amples, ou avec des matériaux qui sont un peu plus naturels, comme le lin ou le coton. Et de fait, on a plus de sensations sur la peau, que ce soit la chaleur, que ce soit l'eau qui tombe après des grosses chaleurs. Donc de se relier à ce ressenti. Et puis aussi, le jour se lève plus tôt. Donc par exemple, de prendre un moment pour se lever, prendre une infusion, un verre d'eau, s'asseoir, ouvrir sa fenêtre si on vit en ville, ou aller dans son jardin si on a la chance d'avoir un jardin, et juste s'asseoir avec cette eau et rentrer dans sa journée avec plus de conscience, plus de présence, plus de lenteur aussi. Et si vous avez des pratiques comme le yoga ou la méditation, c'est déjà juste rentrer dans cette journée avec, en vous asseyant et puis en cultivant la gratitude, en posant la main sur le cœur et en ressentant que même si tout n'est pas parfait dans votre vie, selon votre mental,
oui,
même des choses qui sont extraordinaires, que la nature produit des choses extraordinaires autour de nous. Quand elle se change de fleurs à fruits, c'est quand même incroyable. Et c'est magique, et ça, c'est la magie du vivant et de la nature.
Oui.
Quand on entend les oiseaux, quand on voit la manière dont ils organisent eux-mêmes leur journée, quand on voit l'aube se lever, c'est juste magnifique. C'est pas pour rien que les poètes, les mystiques aiment ce moment précis de la journée, parce que c'est un temps, en fait, qui est suspendu. Et on a plus d'énergie l'été, donc je vous invite vraiment à faire de ce moment, finalement, juste avant le lever du soleil, de vous lever et puis d'apprécier, de surtout pas prendre un téléphone pour minuter ce moment, mais plutôt de prendre juste ce qui est nécessaire et d'ouvrir les fenêtres et de observer cette aube qui transite vers le lever du jour. C'est de la pure magie, les couleurs, l'empreinte qu'on peut ressentir. Et ça fait un rituel qui est extrêmement simple. Et vous pouvez le vivre aujourd'hui, et puis demain, et puis encore après-demain. Et ça, une bonne partie de l'été. Et c'est quelque chose qui est vraiment, qui ouvre à une conscience différente aussi de notre lien à la nature. Et après, vous pouvez faire de vos cueillettes un rituel, de la préparation avec les plantes, un rituel. Mais ne serait-ce que de faire une infusion, c'est déjà un rituel en soi. Ce qui va faire la différence entre un geste qui est accompli de manière automatique et un rituel, c'est la conscience qu'on va mettre. Et là, encore une fois, faire moins, mais avec plus de présence.
Ouais.
Je crois qu'on a vraiment quelque chose à apprendre aujourd'hui, d'un point de vue de notre civilisation, notre histoire aussi. C'est accepter de faire moins et de faire mieux, c'est-à-dire avec plus de présence, plus de conscience, plus d'amour aussi, et plus de soins. Et même si on fait moins, c'est pas grave. Si vous faites quelque chose de très très bien, si toi tu accomplis quelque chose de très très bien, parce que tu le fais tous les jours, avec ta grâce, ton énergie, ta manière d'aimer ce geste et ce moment, ben, tu vas pouvoir le transmettre aux autres. Et c'est et peut-être que ta vie, on se rappellera de Manon juste parce qu'elle a accompli ce geste de cette manière-là. Et ça, c'est vraiment important de se dire que c'est bien sûr que c'est intangible, bien sûr que c'est pas mesurable d'un point de vue du PIB, que c'est invisible au sens de ce que la société attend, mais c'est tellement nourrissant pour nous, pour la Terre. Tous les êtres autour de nous ressentent en fait cette vibration-là. Et c'est ce qui crée un lieu d'harmonie, c'est ce qui crée un jardin d'harmonie, une maison où règne l'harmonie, un foyer où règne l'harmonie et notre propre harmonie. Et tous les êtres vivants sont sensibles à ça. C'est comme ça que fonctionne. Ils ne fonctionnent pas avec le langage, avec des paroles. En fait, ils fonctionnent avec cette vibration et cette harmonie. Et puis, par moments, c'est le chaos. Mais hop, ils rétablissent pour leur petit rituel quotidien. Ils rétablissent une harmonie qui a pu se déstructurer. Et peut-être que quand on commencera à toucher du doigt cela et que plus de personnes toucheront du doigt cela, on pourra plus construire des routes, détruire des forêts comme on le fait actuellement. Oui. Pas seulement en Amazonie, c'est partout, même en France, partout. Oui. Parce qu'en fait, on sera tellement sensible à ce chaos et cette disharmonie, ça va nous déranger et on va tout faire pour que ça ne se produise pas.
Oui. Oui, oui, rien qu'avoir une qualité de présence, ça nous permet d'évaluer notre responsabilité dans chacun de nos actes, de nos oui. mots aussi.
Tout à fait.
Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Ben, ça fait le pont vers la dernière question du podcast que je souhaite te poser, celle de la signification pour toi d'une nouvelle conscience. Tu viens de beaucoup parler de conscience là dans cette dernière réponse, mettre de la conscience dans ce qu'on fait. Donc peut-être que ça donne des indices, mais si tu voudrais développer davantage, voilà, comment ça résonne ?
Écoute, ce qui me viendrait, c'est de parler d'une nouvelle conscience écologique. C'est un mot en France, en tout cas, avec lequel on a beaucoup de mal, qui peine à émerger d'un point de vue politique, que même les scientifiques, parce que c'est bien la seule fois où on ne croit pas les scientifiques et leurs statistiques et leurs travaux de recherche, on dénigre complètement leur travail d'alerte et de propositions. Et je pense qu'il y a une convergence qui va venir par le peuple, enfin, c'est-à-dire par nous, les citoyens, les humains, en fait. Oui. Pour moi, une nouvelle conscience écologique qui passe aussi par cette dimension d'harmonie, de respect, qui est complètement enracinée dans un quotidien et qui est très concrète. Et je crois que c'est par là que peut passer notre salut, et qu'à un moment donné, au-delà de la conscience, des chiffres, des alertes, on a besoin aussi de ramener ça dans un concret et dans un quotidien. Sinon, c'est très anxiogène et on le voit chez les jeunes. C'est pas palpable du tout. Et notre responsabilité d'adulte aujourd'hui et de personnes qui avons de l'expérience, qui avons des diplômes, qui avons des savoir-faire et aussi un savoir-être qui s'est développé, c'est justement d'éclairer le chemin, de montrer les gestes, de montrer une voie, en fait, et une nouvelle conscience, pour que cette nouvelle conscience, elle puisse, en fait, prendre sa place. Et ça passera par les jeunes, bien sûr, mais il y a besoin qu'on balise aujourd'hui, parce que il y a trop d'écart entre cette épée de Damoclès qu'on a sur la tête et ce qui peut se passer et ce qui va certainement se passer et ce qu'on peut faire et comment on peut agir. Donc, il faut vraiment qu'on sème les cailloux pour pouvoir baliser le chemin, parce que en tant qu'adulte, et moi, par exemple, au milieu de ma vie, peut-être même un peu plus que le milieu de ma vie, je sais qu'il y a des choses que je ne pourrais pas faire, mais ce sont les générations futures qui vont faire. En revanche, ma responsabilité, c'est d'amener un enracinement, de ramener aussi un calme qui peut permettre de faire advenir cette conscience et de transiter par l'harmonie et non la peur, non la menace, non la coercition, pardon, parce qu'en fait, ça ne peut pas nous amener à cette nouvelle conscience-là, c'est impossible. On a besoin de sentir aussi l'amour qui sous-tend toutes nos actions, y compris par cet amour de la terre, du vivant, ce respect de la terre, du vivant, des êtres humains, des êtres vivants. Et c'est ça l'écologie, il n'y a pas d'autre mot en fait, hein, il n'y a pas d'autre définition. Il faut qu'on ramène quelque chose qui est plus nourri dans le quotidien. Et pour moi, cette nouvelle conscience, elle est fertile et elle sera fertile pour les générations futures.
D'accord.
Donc, ça, c'est vraiment important aussi, parce qu'il va toucher des personnes qui peuvent peut-être se dire, OK, au-delà de tout ce que j'entends, en fait, je peux agir et c'est maintenant, c'est pas demain ou après-demain. Oui. J'ai une part de responsabilité, je suis responsable d'une parcelle du réel et je peux avoir ma contribution et semer des graines dont les autres prendront soin, et c'est OK aussi comme ça.
Oui, oui, ben c'est vraiment ce que j'ai envie de montrer, tu vois, c'est l'idée que chacun peut agir selon sa propre couleur, sa propre sensibilité, qu'il n'y a pas une seule forme d'engagement, il n'y a pas que l'activisme, il n'y a pas que le yoga pour toucher à l'équilibre intérieur, tu vois, vraiment déconstruire ces messages qui peuvent parfois nous dérouter, parce qu'on a l'impression de ne pas toujours s'inscrire dans tel ou tel mouvement, mais créer son propre apport au monde.
Donc, oui. Qui part de sa propre vie et son expérience au monde. Et ensuite, un jour, elle se déploiera. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est essentiel, c'est que tout ce qu'on fait, n'a pas besoin d'avoir des glorioles ou des reconnaissances.
Oui.
C'est essentiel de se détacher aujourd'hui de quelque chose qui est brillant, qui va révolutionner le monde. Je pense qu'il n'y a pas de révolution. Aujourd'hui, c'est une action qui est constante, qui est patiente, qui est nourrie d'amour. Et c'est ça, en fait, qui va amener un changement qui est positif et qui est fécond pour nous-mêmes, mais aussi pour les personnes autour de nous.
Oui.
Toute l'énergie qu'on met à attendre une reconnaissance, c'est autant d'énergie qu'on met pas dans quelque chose qui est très concret et qui en fait a une action visible. Quand tu prends soin d'un jardin, déjà au bout d'un été, c'est déjà visible, et puis d'année en année, ça va très vite en fait. Et si si cette réflexion là on l'étend à l'échelle de nos vies et que chacun le fait, ça peut vraiment produire des changements conséquents et durables surtout.
Oui, c'est vrai. Séverine, pour te retrouver, comment on peut faire en ce moment? Par exemple, tu es un peu dans une période de jachère sur les réseaux sociaux, mais on a tes livres, donc Alchimie végétale aux éditions Ebook. Je ne sais pas s'il a été réédité, puisqu'il était en rupture de stock il y a quelques temps, ou on peut toujours se le procurer.
Il a été réimprimé plusieurs fois, parce qu'il a
réimprimé.
Été en rupture de stock plusieurs fois.
Oui.
Je crois qu'il le sera encore à l'automne.
D'accord.
Donc, effectivement, il y a ce livre. Ensuite, tout le travail que j'ai fait avec les plantes, les usages populaires autour des plantes, qui est visible dans ce livre Alchimie végétale, qui parle justement de ces savoirs-là, de préparation, de rituels et de plantes qui font partie de nos traditions, je dirais, européennes et méditerranéennes, plus largement. Il y a cette communauté que j'avais initiée avec Né de la Terre et qui est en train de se métamorphoser, mais on a un compte Instagram Né de la Terre. Il y a aussi une lettre qu'on envoie tous les mois, et c'est vrai qu'on porte une réflexion sur comment aussi utiliser avec plus de modération les réseaux sociaux qui sont nécessaires pour être en lien et faire advenir ces nouvelles consciences, mais aussi amener peut-être plus de sobriété par rapport à leur usage. Donc, on essaye de mettre beaucoup de conscience dans ce qu'on fait, y compris la manière dont on communique. Et là, on va lancer les deux dernières promotions des alliances végétales, initiations en ligne, qui ont été créées au début du confinement et qui ont permis justement de vivre aussi ces périodes et de soutenir un lien à des moments où on ne pouvait plus trop se rencontrer physiquement. Mais à partir de l'automne et de l'année prochaine, il y aura de nouveau des temps de transmission qui seront en physique et présentiel.
Donc, d'accord. Ah, en physique aussi, c'est chouette, puisque j'avais assisté
c'est
au...
très important.
Ouais, oui, génial, d'accord, chouette. Oui, le site internet, c'est nedelaterre.co. Donc, voilà, où il y a les différents liens vers les inscriptions à l'Alliance Terrestre, l'Alliance Végétale, donc que j'invite vivement à rejoindre. Moi, je suis inscrite aux deux et ça me nourrit beaucoup.
Donc, merci en tout cas pour ce retour.
Merci à toi et puis je te souhaite une bonne journée. Merci pour votre écoute, merci d'être arrivé à la fin de l'épisode. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous souhaitez suivre le podcast au quotidien, vous pouvez le faire en vous abonnant sur son compte Instagram Nouvelle Conscience Podcast, ainsi qu'en vous abonnant à sa newsletter qui sera publiée une fois par mois. Aussi, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis toujours ravie de vous lire, de vous répondre et de partager avec vous des idées autour de ce projet de nouvelle conscience. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt !